Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, les deux alertes du matin. D'abord, le rythme de transmission du Covid en Europe est à nouveau très préoccupant. Selon l'Organisation mondiale de la santé, record de contamination en Allemagne, record de morts en Ukraine. À propos de la France, les médecins se disent vigilants, pas inquiets à ce stade. Et puis l'alerte de Thomas Pesquet, de la station spatiale. Il voit les effets du changement climatique. Propos tenus à Emmanuel Macron lors d'un échange en visio ce matin. À la COP de Glasgow, un accord selon la Grande-Bretagne pour sortir du charbon pour fabriquer l'électricité. Mais les plus gros pollueurs n'y sont pas. Les femmes, dans leurs trois premiers mois de grossesse, sont trop isolées. La députée Paola Fortezza fait une série de propositions. Elle sera avec nous. Dans l'actualité encore, fin de la grève de la faim pour un des trois militants de Calais. Le fils de Sophie Pétronin prend la parole pour la défendre. Et commission de discipline dans l'Hérault après l'agression d'un arbitre en marge d'un match de foot amateur. Il s'appelle Souleymane Darour. D'abord les insultes.
Le premier qui commence, c'est l'entraîneur. Il commence à me dire que de toute façon, on est que des arbitres de merde, que j'étais un arbitre arabe de merde.
Des coups de pied et menaces de mort ont suivi. Plus léger, heureusement, nous nous réjouirons du succès déjà en librairie du Goncourt 2021. Et vous rendez-vous dans le 13-14, notre invité à 13h30, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Il publie un livre intitulé « Choisir un chef ». Occasion de brosser un tableau politique de la France à la veille de la présidentielle. Vos questions à Jean-Pierre Raffarin, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Le feuilleton, comment faciliter l'accès au numérique dans une commune rurale. Et puis dans C'est une chanson, nous écouterons du Claude François, le 13-14. Vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Un cran est franchi ce matin dans l'inquiétude suscitée par la recrudescence du Covid en Europe. L'Organisation mondiale de la santé lance une alerte. France Inter à Genève, Jérémy Lanche.
Nous allons à nouveau vers des niveaux records de contamination. Tous les pays en Europe et en Asie centrale sont sous la menace d'une résurgence des cas de Covid, quand certains n'y sont pas déjà confrontés.
En un mois seulement, affirme le directeur de la branche européenne de l'OMS, Hans Kluge, l'Europe a vu les cas de Covid augmenter de 55%. Les hospitalisations ont plus que doublé en une semaine. À ce rythme, ça veut dire que près de 500 000 personnes risquent de mourir du Covid avant le 1er février. En cause, la vaccination qui patine, mais également l'assouplissement des mesures et des gestes anti-Covid.
Il y a déjà le fait que nous sommes maintenant plus souvent à l'intérieur, dans des endroits bondés. Il y a peut-être aussi un effet après-coup de la rentrée scolaire et du retour au travail sans port du masque. Et puis il y a bien sûr le variant Delta, qui reste majoritaire dans la région et qui est plus transmissible.
Ce n'est donc clairement pas le moment de baisser la garde, dit Hans Kluge, qui rappelle l'importance du port du masque. L'OMS estime que 188 000 vies pourraient être sauvées cet hiver si 95% de la population portait le masque quand il est recommandé. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
En Allemagne, un nombre record de nouvelles infections en 24 heures a été relevé hier, près de 34 000 cas supplémentaires. Le précédent record avait presque un an, décembre dernier. Autre pays qui suscite l'inquiétude, l'Ukraine, 720 décès pour la seule journée d'hier. L'Ukraine est le troisième pays au monde de ce point de vue, derrière les États-Unis et la Russie, beaucoup plus peuplée. En France, le pass sanitaire est toujours de rigueur et à disposition, même si l'épidémie devait régresser jusqu'au 31 juillet. C'est la dernière version du texte examiné au Parlement, ce n'est pas encore définitif. Pour l'instant, l'épidémie ne régresse pas, elle augmente plutôt dans des proportions qui suscitent la vigilance, pas encore l'inquiétude des spécialistes. On est très loin d'une saturation des hôpitaux. Près de 6000 nouvelles contaminations quotidiennes en moyenne ces derniers jours. Le taux d'incidence est supérieur au premier seuil d'alerte de 50 dans les deux tiers des départements. Il augmente dans 79 départements et localement. On reste à la merci d'un relâchement de la vigilance. Dans la Creuse, le taux d'incidence a doublé en moins d'une semaine. Il est de 101, il est même à 200 chez les plus de 65 ans, où il a quadruplé. En cause, dans cette catégorie de population, des rassemblements comme des parties de pétanque, des thés dansants, des soirées moules frites. La préfète Virginie Darfeuille appelle à la vigilance.
Les rassemblements ont abouti aux contaminations de personnes de plus de 65 ans. Le taux d'incidence a doublé sur la Creuse en moins d'une semaine et il a même quadruplé pour les personnes de plus de 65 ans. Ce sont des personnes qui ont eu leur schéma vaccinal il y a 6, 8, 9 mois pour certaines, donc pour lesquelles la protection s'est amoindrie par rapport à ce qu'elle était au printemps. Donc, deux solutions et seulement deux solutions pour que la situation s'améliore. Et je veux passer un message très fort à nos concitoyens. Faire sa troisième dose lorsque l'on est dans la cible, c'est-à-dire les plus de 65 ans, et maintenir très élevés les gestes barrières, ne pas s'embrasser, ne pas se serrer la main et porter le masque chaque fois que l'on est dans des situations l'imposant.
Et si l'épidémie continue de progresser, un durcissement des mesures sanitaires n'est pas exclu en Creuse. Depuis le mois de septembre, les plus de 65 ans en effet, mais aussi les résidents en EHPAD, les soignants, les personnes fragiles sont appelés à recevoir une troisième dose de vaccin. Ça fait plus de 6 millions de personnes, la moitié de ce public éligible seulement à utiliser cette possibilité pour l'instant. Pour les écoliers, le masque va faire son retour lundi dans les écoles élémentaires d'une quarantaine de départements où les enfants ont l'avaient retiré avant les vacances. Il sera donc de rigueur à la rentrée dans 61 départements en tout. Aux États-Unis, la vaccination des 5-12 ans a commencé cette semaine. Elle n'est pas à l'ordre du jour en France. L'Agence européenne du médicament se prononcera mi-décembre. La situation en France et aux États-Unis n'est pas la même, explique le professeur Alain Fischer, qui préside le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale.
Il faut savoir qu'aux États-Unis, la situation n'est pas aussi favorable qu'en France en ce qui concerne les enfants. Il y a beaucoup plus d'enfants hospitalisés de formes graves, très certainement liées au fait qu'il y a beaucoup d'enfants en situation d'obésité aux États-Unis. Donc, il est assez légitime, à vrai dire, dans ce contexte qu'ils commencent la vaccination. Pour ce qui est de la France, donc qui est dans une situation, encore une fois, plus favorable, on peut se permettre d'attendre un peu, de voir d'ailleurs comment les choses vont se passer aux États-Unis, d'évaluer le nombre d'enfants hospitalisés, la circulation du virus chez les enfants, est-ce qu'il y a des fermetures de classe ou pas, la circulation du virus en général dans la population, et se fonder sur tous ces critères, c'est-à-dire à la fois quel est le niveau de bénéfice direct pour les enfants, le bénéfice indirect d'éviter des fermetures de classe, le bénéfice pour la population de vacciner les enfants, qu'une éventuelle décision pourra être prise, mais pas dans l'immédiat.
Alain Fischer avec Marie Bernardo ce matin sur France Info. Voilà ce qu'on peut dire du Covid à ce stade. J'ajoute que sur franceinter.fr, on vous parle de la flambée des contaminations en Europe en 4 infographies. Entre France et Grande-Bretagne, va-t-on sortir de l'impasse sur les licences de pêche? C'est aujourd'hui que le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune, reçoit en France le secrétaire d'État chargé du Brexit, David Frost. Parmi les zones de pêche pour lesquelles les négociations sont tendues, les abords de l'île anglo-normande de Jersey. Grégory Guida est le ministre assistant en charge de l'environnement à Jersey. La position de son île est difficile, dit-il.
Jersey n'a pas participé aux discussions, n'a pas signé le contrat, n'a pas voté pour Brexit. C'est très difficile de participer à un contrat que vous n'avez pas signé. Ce qui est sûr et ce qui est très triste en ce qui nous concerne, c'est que on s'est coupé en quatre pour rendre service aux pêcheurs français. Notre problème est purement technique. Si vous pouvez prouver que vous avez pêché 11 jours en 2019, ce qui n'est pas très difficile parce que les bateaux ont des fiches de pêche qui sont des documents obligatoires, un peu comme une fiche de paye ou une carte grise pour une voiture. Donc, vous me montrez votre fiche de pêche pour 11 jours en 2019 et vous avez une licence pour 2022. Mais c'est très important qu'on ne commence pas à marchander, à faire rentrer d'autres bateaux, parce que le problème, ça va être, est-ce qu'on peut conserver cet effort de pêche dans l'avenir? C'est plus un problème de pêche durable et de garantir que les pêcheurs qui pêchaient en 2019 pêcheront en 2022, mais pas plus.
En France, le Brexit, mais bien plus encore la pandémie, ont porté un coup au secteur essentiel pour notre économie du tourisme. L'année de référence, c'est 2019. La France, alors première destination touristique mondiale, le secteur représentait 7,4% de la richesse nationale, près de 10% des emplois. Comment relancer la machine après le Covid? Un sommet Destination France se tient aujourd'hui à l'hôtel de la Marine, sur la place de la Concorde à Paris. Emmanuel Macron reçoit une cinquantaine de responsables français et internationaux du secteur. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Quelle est l'ampleur de la casse avec vous, Maxime? État des lieux du tourisme en France avant ce sommet.
Avec 110 milliards de pertes de chiffre d'affaires en un an et demi, le tourisme français a retrouvé quelques couleurs cet été, mais son teint reste plutôt pâle dans la capitale. Paris, ville à part où l'horizon reste gris, toujours absente la clientèle asiatique, les Américains qui reviennent, mais encore très timidement. 45% de clients en moins dans les hôtels parisiens qu'en temps normal encore en septembre, nous dit un spécialiste du voyage ce matin, qui évoque en parallèle des éclaircies notables avec les clients européens à nos frontières, qui marquent un retour assez fort et surtout un marché domestique qui porte l'activité encore en cette rentrée. Les gîtes de France battent des records, par exemple avec ses vacances de la Toussaint, plus 10% 10% de taux d'occupation par rapport à 2019. C'est là-dessus que la France doit capitaliser pour les spécialistes, donner aux Français encore plus l'envie de se tourner vers les territoires qui marchent fort, sans doute améliorer les dessertes en train pour booster l'activité dans l'Aveyron, par exemple, en Ardèche, au moment où les habitudes changent, nous dit un expert du secteur, c'est peut-être le moment pour le tourisme français de se réinventer.
L'actualité économique, c'est l'indice CAC 40 toujours dans le vert après avoir battu des records ces derniers jours, plus 0,36% en cette mi-journée. Au 25e jour de grève de la faim, l'un des trois militants qui dénonce le traitement réservé aux migrants à Calais cesse son action de protestation. C'est le prêtre Philippe de Mester, aumônier du Secours catholique à Calais. Les militants demandent la fin des expulsions des campements de migrants pendant la trêve hivernale qui a débuté lundi. Philippe de Mester cesse donc sa grève de la faim. Il n'arrête pas le combat pour autant. Il va s'atteler à aménager dès demain un lieu d'accueil pour les migrants.
Quand je suis rentré dans la grève de la faim, j'avais à cœur de pouvoir donc célébrer l'Eucharistie le 2 novembre pour faire mémoire de toutes les personnes qui ont été victimes de la frontière franco-britannique, donc un peu plus de 300 personnes. Pour moi déjà, cet objectif-là, il était atteint parce que je ne savais même pas dans quel état je serais en arrivant au 2 novembre. Ce qu'on demande, c'est de dire ces personnes qui vivent sous l'attente, que déjà on leur permette de ne pas être tout le temps à la merci des interventions policières, qu'on leur foute la paix, grosso modo.
Qu'allez-vous faire dès demain ?
Il y a eu deux hivers où on a ouvert ce qu'on appelle la crèche. La nuit du 24 au 25 décembre, on recommence cette année, donc je lâche pas le morceau et je rouvre un autre lieu. Cette grève, moi je l'ai vécue comme quelque chose de joyeux, parce que voilà, la vie était au rendez-vous.
Et à quoi aura-t-elle servi, selon vous ?
Bah déjà, à cette grande nouvelle médiatisation, il y a des gens qui peuvent s'en plaindre, voilà, tous les politiques, etc., en disant ça nous vient dans les pattes au moment où va se lancer la campagne électorale. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui redise les fondamentaux de ce que sont les droits humains.
Philippe de Mester avec Rémi Brancato, les deux autres militants poursuivent leur grève de la faim. Le député La France Insoumise Bastien Lachaud est mis en examen dans l'enquête sur les comptes de campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Il est poursuivi pour prêt illicite de main-d'œuvre, faux et escroquerie. La présidentielle 2022 est l'instance de contrôle des Républicains qui valide les 5 candidatures avant le Congrès qui doit désigner le candidat LR à la présidentielle. Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse. Allez, voici ce qu'on pourrait appeler une conversation de haut vol.
Bonjour Monsieur le Président, bienvenue à bord de la Station Spatiale Internationale.
Bonjour Thomas, vous allez bien ?
Emmanuel Macron, Thomas Pesquet, 25 minutes de conversation ce matin, l'un assis à l'Élysée devant un écran, l'autre debout dans la Station Spatiale Internationale qui tourne autour de la Terre. Et c'est un poste d'observation, hélas, parfait en pleine COP26 pour mesurer les effets du dérèglement climatique. Question d'Emmanuel Macron d'abord.
Et l'observation de la Terre en permanence, là, est-ce que vous voyez véritablement les conséquences du dérèglement climatique ?
Malheureusement, oui, Monsieur le Président, on voit distinctement. Hein. Alors la fragilité de la Terre, ça choque évidemment, c'est une expérience un peu sensorielle de voir à quel point on est une oasis isolée avec des ressources limitées et que tout ça c'est très fini en fait. Mais on voit aussi malheureusement les effets néfastes des activités humaines. On voit la pollution des rivières, on voit la pollution atmosphérique, on voit des choses comme ça. Ce qui m'a vraiment choqué pendant cette mission, c'était des phénomènes météorologiques ou climatiques extrêmes. En fait, c'était les feux sur des surfaces immenses. On a vu la Californie entière recouverte d'un nuage de fumée. On voyait les flammes à l'œil nu depuis la station spatiale à 400 km d'altitude. Même chose dans le sud de la France, en Grèce, sur le bassin méditerranéen. Et puis on voyait aussi malheureusement le triste spectacle des tempêtes tropicales. Vous savez, ces cyclones qui sont impressionnants vu de la station spatiale, mais une fois que l'un était passé, malheureusement, en faisant des dégâts, on en voyait déjà un autre qui se formait dans l'Atlantique Sud. On le voyait distinctement ici depuis la station.
Et pour la lutte contre le dérèglement climatique, la très mauvaise nouvelle est arrivée ces dernières heures sous la forme d'une étude du Global Carbon Project. Après l'année de baisse liée à l'arrêt de l'activité économique au plus fort du Covid, les émissions de CO2 sont reparties à la hausse. Elles devraient augmenter cette année de 4,9%. Tout près du record absolu de 2019. Et la Chine sera, selon cette étude, plus que jamais cette année le premier émetteur mondial, 31%. La bonne nouvelle, bonjour Célia Kiré.
Bonjour Bruno.
C'est qu'à la COP, selon la Grande-Bretagne, un accord a été signé pour qu'à terme, 190 pays n'utilisent plus de charbon pour fabriquer leur électricité.
Oui, c'est un pas en avant notable, car parmi les pays qui signent cet accord, il y a de gros consommateurs de charbon. C'est le cas de la Pologne, pays très dépendant de ses mines, ou encore du Canada, de l'Ukraine, du Vietnam, du Chili. Ça veut dire qu'ils s'engagent à ne plus produire d'électricité l'électricité à base de charbon à l'horizon 2030 pour les pays développés, 2040 pour les pays les plus pauvres. Ils ne construiront plus de nouvelles centrales, mais certains pays, encore plus gros producteurs de charbon, brillent par leur absence dans cet accord. A priori, la Chine ne signe pas. Elle s'est déjà engagée à ne plus investir dans de nouvelles centrales de charbon à l'étranger, mais chez elle, elle ne supprime pas le charbon. L'Australie produit 50% de son électricité à partir du charbon et elle garde ses mines. L'Inde ne signe pas non plus et 70% de son électricité vient du charbon. Les États-Unis ne sont pas dans l'accord. Il faudrait donc un pas beaucoup plus grand. Par ailleurs, près de 20 pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, doivent signer une déclaration commune pour ne plus financer la production de charbon à l'étranger. Là aussi, c'est une étape. Mais selon l'Agence internationale de l'énergie, il faudrait arrêter tous les nouveaux projets tout de suite et partout pour espérer limiter le réchauffement à 1,5 degré et on en est loin.
Alors, il y a les négociations internationales et puis les initiatives concrètes que nous mettons en lumière pendant cette COP. Dans l'habitat, par exemple, en plein cœur de Paris, dans le 15e arrondissement, un bâtiment un peu étrange a ouvert ses portes il y a quelques jours, c'est la Villa M. C'est un lieu concept qui mélange hôtel, espace de travail, maison de santé et qui intrigue surtout par sa façade. Elle est végétalisée, elle a été conçue pour protéger les occupants de la montée des températures. Reportage France Inter, Delphine Evenou.
En cette fin d'automne, le côté jungle frappe un peu moins l'œil qu'en été, mais entre deux vieux et étroits bâtiments parisiens, la façade de la Villa M dénote. D'immenses taches de verdure dégringolent et s'accrochent à des poutres de métal qui encadrent de grandes baies vitrées.
C'est vraiment une façade bioclimatique.
Olivier Raffaelli est l'un des deux architectes qui a conçu le bâtiment.
On est franco-brésilien, donc l'idée avec le paysagiste Coloco, c'était de tropicaliser cette grande structure. À la fois, c'est une brise soleil, mais aussi la façade qui porte le bâtiment porte aussi des jardins verticaux qui viennent refroidir la façade en été.
En grimpant dans l'immeuble, on se rapproche de ces jardins un peu particuliers qui prolongent presque le sol.
Ça fait 4 mètres de large et 40 cm de profondeur. Vous avez un mélange donc d'herbes médicinales, de plantes indigènes, de plantes de saison. La structure extérieure, qui est métallique, est creuse. Dans la structure, vous avez à la fois l'irrigation qui arrive et à la fois la descente des eaux pluviales qui sera ensuite récupérée en sous-sol.
Mais on n'en est pas à la neutralité carbone.
Bien entendu, sur un bâtiment comme celui-ci, aujourd'hui, dans les normes actuelles, c'est impossible d'imaginer de se passer de climatisation. En revanche, la façade, elle, nous permet de retarder le moment où on va allumer la clim.
Quelle baisse de température obtenue ? Dans les prochains mois, les architectes vont prendre des mesures comparatives avec le bâtiment haussmannien d'à côté. Premier résultat en janvier.
À propos de la COP 26, vous trouvez un rassemblé sur franceinter.fr les dernières informations et les principales émissions et chroniques qui traitent de cette question de la COP 26.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvy.
Le fils de Sophie Pétronin prend la parole. Le retour au Mali de l'ex-otage retenu pendant près de 4 ans suscite la controverse en France. Forme d'irresponsabilité, a dit hier le porte-parole du gouvernement, en pointant les risques pour la sécurité de Sophie Pétronin elle-même, mais aussi des militaires français sur place. Elle répond qu'elle se sent chez elle, au Mali, où elle a adopté une petite fille. Ce matin encore, parmi les responsables politiques, Bruno Retailleau, à droite, a parlé de trahison. Qu'en dit son fils, Sébastien ? Il est intervenu ce matin sur BFM, Olivier Poujade.
Sébastien Pétronin se rendra dans quelques jours au Mali, un rendez-vous à l'ambassade de France et il l'espère au ministère de la Sécurité malienne pour s'assurer, dit-il, que la protection privée dont sa mère bénéficie est toujours respectée.
J'en profite aussi pour clarifier un point qui a peut-être échappé à messieurs Attal ou Chenu ou Bédala qui s'étale dans la presse. Elle est à Bamako, certes. Mais elle n'est pas dans le désert, elle ne prend pas des risques.
Ce retour n'est en aucun cas un acte irresponsable, selon lui.
Monsieur Macron trouve que ma mère est une irresponsable. De faire croire qu'elle est retournée auprès de ses bourreaux dans le Nord Mali, qu'elle met en danger la vie de nos soldats, alors qu'ils savent très bien où elle est, dans les conditions où elle vit, avec toutes les mesures de sécurité qu'elle prend, je pense que ça, c'est pas très responsable non plus.
Sébastien Pétronin règle ses comptes et affirme que sa mère et lui ont tout mis en œuvre pour que le secret de ce retour à Bamako reste bien gardé.
On a une vieille femme qui est à l'automne de sa vie et elle voudrait juste que tout le monde l'oublie. Elle est même prête à jamais sortir de son appartement, mais qu'elle soit proche de sa fille et puis qu'on lui foute la paix.
Aucune clarification en revanche sur la fuite de cette note de la gendarmerie malienne qui a révélé la présence de sa mère au Mali la semaine dernière. Sébastien Pétronin s'interroge lui-même sur l'identité des personnes qui auraient intérêt à faire renaître une polémique sur ce sujet.
En France, l'histoire fait froid dans le dos. Dans les Pyrénées-Atlantiques, la directrice d'une école privée est mise en examen pour viol sur des enfants de maternelle, école Saint-Joseph à Jurançon. Il y aurait 6 victimes, uniquement des petits garçons. Il y a près de 700 000 naissances chaque année en France, et pour les femmes qui portent ces enfants, un sujet est très peu abordé, ce sont les trois premiers mois de grossesse, les nausées, la peur de la fausse couche, le travail que l'on continue bien souvent alors que la grossesse ne se voit pas forcément physiquement. La députée Paola Fortezza, qui avait très directement témoigné au mois de juillet, propose une série de mesures aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Bonjour madame.
Bonjour.
Ce que vous pointez d'abord, c'est l'isolement, bien souvent, des femmes lors de ces trois premiers mois de grossesse.
Oui, nous avons recueilli des centaines et des centaines de témoignages et vraiment, ils sont unanimes. Toutes les femmes se sentent seules, se sentent isolées, se sentent très fatiguées en ces premiers mois de grossesse, qui sont les plus difficiles, hein, parce qu'évidemment, vous l'avez dit, il y a ces nausées, ces vomissements, ces états narcoleptiques, où on s'endort un peu partout de façon complètement involontaire. Et tout ça alors même que la société leur impose de garder ce silence, parce qu'il pourrait y avoir un risque que la grossesse n'aille pas au bout.
Et peu d'informations sur les risques de fausses couches pour ne pas les inquiéter, pour ne pas les affoler.
Exactement, exactement. Et ce qui est pire, parce que on n'anticipe pas, on se prépare pas, et donc le moment venu, on est désarmé pour faire face à cette situation.
Alors que faire? Que proposez-vous pour sortir les femmes de cet isolement? Une première piste, c'est d'abord travailler sur la recherche, c'est ça?
Absolument, parce qu'il y a évidemment un manque de recherche, un grand rattrapage à faire sur la question du corps des femmes et de comment, par exemple, certains médicaments peuvent impacter le corps des femmes pendant la grossesse. Ouais. On voit qu'il n'y a aucun médicament qui peut être utilisé pendant la grossesse, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été testés. Et donc, on nous renvoie directement à des solutions naturelles qui sont plus ou moins efficaces hein, selon les femmes.
La prise en charge des frais médicaux également.
Oui, il faut que la prise en charge soit faite à 100% par l'assurance maladie dès le début de la grossesse, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, y compris pour le soutien psychologique. Ouais. En fait, la grossesse, les impacts physiques et médicaux de la grossesse commencent dès le premier jour, pas au bout de 3 mois, même si ça ne se voit pas, disons.
Ça vous a surpris, Paola Fortezza, les dizaines et dizaines de témoignages que vous avez reçus? Vous ne vous attendiez pas à cela après avoir vous-même raconté ce que vous avez vécu?
Oui, c'était plutôt un cri du cœur hein, face à cette injustice que je vivais personnellement. Et je me suis rendu compte que j'ai vraiment mis le doigt sur quelque chose de structurel qui est partagé par toutes les femmes. Et pourquoi est-ce qu'on devrait garder ce silence si on pourrait être mieux accompagné par son entourage pour commencer, mais aussi par le système de santé, le cadre professionnel, les politiques publiques, par la société dans son ensemble.
Alors les mesures que vous proposez, c'est dans le cadre de l'examen du budget, vous pensez qu'elles vont passer? Vous avez sondé vos collègues députés, ça va passer ou pas?
Alors, je pense pas que ça va passer. Pour tout vous dire, ces mesures font partie d'un travail plus global qu'on a mené avec ma collègue Alban Gaillot sur ce qu'on appelle le budget sensible au genre, le budget genré. Oui. Donc, on sait que l'égalité femmes-hommes a été prononcée la grande cause du quinquennat, mais le compte n'y est vraiment pas, ni en termes de ressources, ni en termes de méthodes. Et ces mesures en sont la preuve. C'est des mesures très simples qui pourraient changer la vie de beaucoup, beaucoup de femmes, et on sait que la majorité n'est pas encore à ce stade ouverte à ce type de mesures.
Et donc, vous les mettez au moins dans le débat. Merci, Paola Fortezza, d'avoir pris quelques minutes avec nous. Cette histoire, à présent, qui raconte la violence qui éclate parfois en marge des matchs de football amateur. La commission de discipline du district de l'Hérault se penche cet après-midi sur un match qui opposait des moins de 19 ans entre deux petits clubs du département. C'était le 2 octobre. Certains joueurs de la commune de Marseillan, entre Montpellier et Béziers, n'ayant pas présenté de passe sanitaire, l'arbitre a annulé le match. S'en est suivi un déchaînement de violence contre lui. Il s'appelle Souleymane Darour. Il raconte au micro de Sébastien Garnier de France Bleu Hérault.
Le premier qui commence, c'est l'entraîneur. Il commence à me dire que de toute façon, on écoute des arbitres de merde, que le district, ils envoient que de la merde, que j'étais un arbitre arabe de merde. C'est là où ça commence. Après, c'est les joueurs, ils m'ont tombé dessus. Et le gardien, il m'a bien mis un coup de pied dans le ventre. Et je suis tombé par terre. C'est des crampons en fer. J'ai pris deux coups, j'en ai la photo. J'ai pris ici, en plein du cervical. C'est derrière le dos, en sachant que j'ai une prothèse. Je suis parti en courant pour rentrer dans la buvette. Et c'est là où il me sort, le frère du gardien, il me sort le couteau. Il me dit, casse-toi, on va te tuer aujourd'hui. J'espère qu'ils vont être radis. Moi, même le, pour moi, le club, carrément, il mérite ça. Hein. Et ça sera un exemple pour tout le monde.
Et le président du club de Marseillan a condamné les violences de son équipe et a exclu le gardien de but. La commission de discipline se réunit à 17h. Elle entendra les protagonistes de l'affaire. Les sanctions seront prononcées plus tard. Le basket français, lui, est toujours privé de télévision. Toujours aucun diffuseur. Pour le championnat français, ce qu'on appelle la Betclic Elite, cela un mois après sa reprise. Toujours aucun diffuseur pour l'Euroleague non plus, la grande compétition européenne de basket qui réunit les meilleurs clubs européens. Pour la première fois depuis 6 ans, 2 clubs français sont en Euroleague, Asvel et Monaco. Ils font plutôt bonne figure, mais pour les voir jouer, c'est l'enfer. Et la situation n'en finit pas d'agacer un peu tout le monde. Adèle Benoumri, les dirigeants et les supporters.
Quand il ne va pas à l'Astrobal pour voir jouer l'Asvel avec son groupe de supporters, Alexis doit se contenter d'Euroleague TV.
Chacun de son côté et on regarde les matchs grâce au site de l'Euroleague qui est un service payant à l'année, mais c'est comme ça qu'on s'y retrouve.
Une plateforme en ligne à 80€ l'année qui en une saison a vu son nombre d'abonnés multiplié par 7 en France. Et pour ceux qui ne veulent pas s'abonner à cette plateforme, une seule solution selon Pierre Metz, consultant en droit sportif.
Ne vous en faites pas, les fans vont les voir les matchs avec le piratage. Ils trouveront ça très facilement en 10 secondes, ils vont trouver un lien de streaming qui va leur permettre de voir les matchs de l'Euroleague. Et c'est un danger pour tout le monde. C'est un danger pour le basket, c'est un danger pour les diffuseurs.
Les diffuseurs aussi absents pour le championnat de France et pour Michel Mimran, le directeur général de la Ligue nationale de basket, le problème n'est pas l'attractivité du basket français.
Tout le monde reconnaît le niveau de qualité des compétitions françaises et de leurs clubs. Donc il faut plutôt aller chercher ça dans ce qui est en train de se passer au sein des chaînes. Certains sports, donc moi je peux parler du basket, c'est la question véritablement du slot, de la case horaire qui pose question.
Les diffuseurs qui se privent donc d'un public français toujours plus intéressé par le basket. L'intérêt pour ce sport en France a augmenté de 53% depuis 2012, selon une étude commandée par l'Euroleague.
Allez, revenons avant la météo sur une actualité dont nous avons largement parlé hier. Le concours 2021 attribué à Mohamed Mbougar Sarr pour la plus secrète mémoire des hommes. Je vous encourage à réécouter son interview ce matin au micro de Léa Salamé sur France Inter. Bonjour Ilana Mor-Youssef.
Bonjour.
Ça marche déjà fort en librairie. On trouve le livre, ceux qui redoutent les pénurie de papier n'ont pas à s'inquiéter pour l'instant.
Oui, pas d'affolement, parce que même s'il y a une rupture, elle sera très brève. Philippe Rey, l'éditeur de Mbougar Sarr, tient à rassurer. Il y a assez de papier, il y a un imprimeur, il y a un distributeur. Chacun pourra avoir son exemplaire.
Nous avons lancé 300 000 exemplaires. C'est la première fois de ma vie d'éditeur que je lance une fabrication à 300 000 exemplaires. C'est absolument prodigieux. Nous avons le papier, les imprimeurs nous suivent et nous sont fidèles depuis des années. Dès la semaine prochaine, dès le début de la semaine prochaine, les livres seront en librairie jusqu'à Noël sans problème.
Et à l'étranger aussi, le livre suscite l'engouement. Marie Lanurien de l'agence BAM est chargée de vendre les droits étrangers et audiovisuels du livre. Et là aussi, ça flambe.
On est arrivé entre, on va dire, début septembre et juste avant le concours, déjà à 24 langues, 24 pays qui ont acheté les droits de Mbougar Sarr.
Et depuis le concours ?
Et depuis le concours, on a le Kosovo pour la langue albanaise, la Chine qui s'est réveillée et qui est en train d'offrir, et on aura les résultats fin de semaine. On a la Bosnie-Herzégovine, il reste l'Islande, on attend avec impatience le Japon. Et je sais qu'en Corée, est en train de monter aussi des enchères. C'est énorme.
Énorme, en effet. On devrait arriver à une trentaine de sessions d'ici la fin de la semaine. Pour plaisanter, Marie Lanurien et Philippe Rey se sont fixés pour objectif de vendre à 41 pays, comme pour l'Anomalie, le Goncourt de l'an dernier. Et vous connaissez l'adage, Bruno. Dans toute plaisanterie, il y a une part de plaisanterie.
Merci, Ilana Mor-Youssef. Et donc, l'interview, c'est à réécouter sur franceinter.fr. Et si le succès en librairie est le même que pour l'Anomalie, eh bien, ce sera un carton. Dans un instant, la météo.
La France mutualiste.
Quelle est la capitale du Bénin ?
Porto Novo.
Trop fort, papa. Et si je te demande un placement souple et fiscalement avantageux, qu'est-ce que tu me conseilles ?
La France mutualiste.
La France mutualiste ?
Oui, avec le plan d'épargne retraite de la France mutualiste, l'épargne est même disponible en cas de coup dur. Et c'est jamais trop tôt pour préparer sa retraite.
T'as vraiment réponse à tout.
Vous aussi, découvrez tous les avantages du plan d'épargne retraite LFM Perform sur lafrancemutualiste.fr. La France mutualiste, l'assurance d'un esprit de famille.
La France mutualiste.
Groupe La France mutualiste, mutuelle et intermédiaire d'assurance enregistrée à l'Orias.
France Inter, M.
Tartuffe, au Théâtre de la Criée à Marseille. Entre grande comédie et roman noir, Macha Makeyev peint un Tartuffe trouble et sensuel, entre secte et libertin. Un spectacle où désir, emprise, consentement, déchirent une étrange famille bourgeoise. Un Molière ravageur. Tartuffe, jusqu'au 26 novembre, au Théâtre de la Criée à Marseille, et du 1er au 19 décembre, au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. un spectacle France Inter.
Une dernière minute, Gaël Monfils forfait à Bercy avant son huitième de finale contre Djokovic. C'est l'agence France Presse qui l'annonce en citant l'ATP. Le temps de ce jour.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, pruneau rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Le temps est encore instable Sébastien.
Oui, avant une séquence plus calme pour finir la semaine et même une tendance ensoleillée qui se dessine pour la semaine prochaine. Les conditions restent capricieuses cet après-midi sur une bonne partie du pays avec un ciel souvent chargé et des passages d'averses. Ces averses circuleront entre les côtes de la Manche, la Touraine, le Massif central, Rhône-Alpes et le Grand Est, mais aussi entre le sud de l'Aquitaine et les Pyrénées. Près des côtes de l'Aquitaine, d'ailleurs, les averses seront plus actives et même orageuses, tout comme sur le Nord-Pas-de-Calais. Les éclaircies seront plus franches et l'après-midi plus calmes sur les départements près de l'Atlantique, jusqu'au bord de la Garonne. Et puis, comme souvent, les régions méditerranéennes profiteront d'un après-midi sous le soleil dans une ambiance ventée. Prévoyez quand même un ciel plus variable sur l'ouest de la Corse. Les températures sont en légère baisse. On a même eu quelques petites gelées ce matin. Cet après-midi, les maximales auront du mal à atteindre la barre des 10 degrés sur le nord-est. Il fera par exemple 8 degrés à Metz et Besançon. Prévoyez 11 degrés à Lille, Lyon, Paris et Caen. 15 degrés à Marseille, 16 degrés à Perpignan et tout de même jusqu'à 20 degrés sur l'est de la Corse.
Sébastien Léas, Météo France, il est 13h30.
France Inter. Le 13-14, Bruno Duvy.
En s'intéressant à la question du leadership, on peut brosser un tableau politique de la France assez large. L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin publie aux éditions Michel Lafon « Choisir un chef » à moins de 6 mois de la présidentielle. À l'origine, c'est un cours pour les étudiants de l'école de commerce SCP Business School. À la fin, même si on passe par l'étranger, de la Chine à Donald Trump, en passant par Greta Thunberg et Angela Merkel, c'est une analyse des blocages du système politique français. Le dernier chapitre est titré très directement « Qui va gagner l'élection présidentielle ?» 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions à l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac. Bonjour Jean-Pierre Raffarin.
Bonjour et bonjour à tous.
Petit extrait sonore d'abord, deux leaders face à face ou côte à côte. Emmanuel Macron disait au revoir à Angela Merkel hier en Bourgogne.
Je voulais te remercier de m'avoir tant appris et d'avoir accepté ce jeune président impétueux qui voulait tout bousculer. Je crois que nous avons ensemble bousculé beaucoup de choses. Et nous avons fait, durant ces dernières années, beaucoup de choses pour l'Europe.
Macron-Merkel, Jean-Pierre Raffarin, deux styles de leadership. Lequel est le meilleur ?
Oh, je pense qu'ils sont tous les deux assez bons, mais Merkel a un style vraiment elle. C'est peut-être le leadership féminin,
oui.
C'est-à-dire de la sobriété, de rester dans le réel, assez pragmatique, pas trop idéologique, pas trop de coup de com', pas de provocation, jamais de brutalité.
Oui.
Et donc ça, c'est cette forme de...
Cohérence de conviction, sobriété de comportement, elle ne brutalise pas, écrivez-vous.
Absolument. Oui. Et donc ça, je pense que c'est un peu le leadership féminin qui devient le leadership à la mode.
Alors arrêtons-nous sur cette notion de leadership féminin parce qu'il peut fâcher les féministes. Il y a une façon féminine d'exercer le pouvoir.
Je le pense. Je pense qu'on peut être homme et exercer de manière féminine. On peut être femme et exercer de manière masculine. Mais que globalement, et ça il y a quand même beaucoup de livres, je vois bien qu'il y a des gens qui disent il n'y a pas de leadership féminin. Mais enfin, les Christine Lagarde, les Ngozi, la nouvelle patronne de l'OMC, il y a beaucoup de femmes, la nouvelle première ministre de Nouvelle-Zélande,
Jacinda Ardern,
qui explique vraiment qu'il y a un leadership féminin. Donc moi, je l'observe, je pense que c'est un leadership qui n'est pas forcément pratiqué que par les femmes, mais qui est quand même le leadership de la sobriété, de la responsabilité et au fond le leadership d'un leader qui se protège. Et ce que je trouve dangereux dans le leadership masculin...
Que vous définissez comment ?
Comme un leadership très entreprenant, très overdosé, on dirait en anglais, c'est-à-dire que vraiment pushing, quoi, qui est un peu ce qu'avait Nicolas Sarkozy, en force, ce qu'a un peu Emmanuel Macron, c'est-à-dire extraordinairement présent. Je dis attention, parce que l'usure... La lassitude vient très très vite dans ces démocraties qui vivent en direct en permanence. Et donc, le leadership, je pense qu'aujourd'hui, c'est à la fois une vertu quand c'est bien pratiqué, mais il y a un certain nombre de dérives, parmi lesquelles il y a cette hubris du pouvoir, cette, quelquefois, tendance à bien aimer l'exercice solitaire du pouvoir. Et je crois que ça, c'est très important. On le voit dans les entreprises... comme sur le terrain politique. Je prends souvent des exemples politiques, mais j'ai beaucoup travaillé sur l'entreprise et sur le travail que font les business schools en matière de leadership. On voit bien que ça touche aussi les entreprises. Le leadership masculin est un peu plus provocateur.
Question de Patrice au standard, parce qu'au fond, elle enchaîne bien avec ce que vous venez de dire. Bonjour Patrice.
Oui, bonjour.
Merci de nous avoir appelés.
Eh bien voilà,
je me demande si la sacralisation du chef ou d'une chef n'est pas en contradiction avec la volonté des citoyens d'exprimer plus souvent leur avis, voire d'avoir une parcelle de décision au sein d'une société qui leur ferait plus de place. Je pense qu'on fait croire aux citoyens qu'à partir du moment où les chefs, à quelque niveau qu'ils soient, ont pris leur décision est une décision de bon sens, parfaitement mûrie, et finalement ce qu'on constate, c'est que les dirigeants oublient souvent leur premier devoir, celui du discernement, et sont le jouet des lobbies, sans m'étendre là-dessus, en une seconde, ce que je peux constater par exemple dans mon département de la Meuse, où le projet CIGEO de Bure, où la démocratie est bafouée par le pouvoir de l'argent, et où les chefs n'ont pas fait ce travail de discernement.
Alors Jean-Pierre Raffarin, est-ce que être un chef, c'est être un chef seul, une fois élu, on oublie, on fait ce qu'on veut ?
Non, certainement pas. Il y a des contre-pouvoirs au chef. Et donc,
on en manque en France.
Et on en manque. Je pense qu'on manque d'un pouvoir du Parlement très très fort. Mais le chef, c'est quand même une approche de management qui est quand même très utile. Pourquoi ? Parce que les choses sont de plus en plus complexes. Et que pour les comprendre, il faut les incarner. Et qu'est-ce qu'un chef ? C'est l'incarnation d'un certain nombre de problèmes qui sont souvent très compliqués. Et donc, au fond, le chef, c'est le visage d'une complexité. Et si on prend les sujets les uns après les autres, on se rend compte qu'il n'y a aucune lisibilité. Un chef, c'est lisible. On le voit agir, on peut le comprendre et on peut parler avec lui. Mais naturellement, il faut des contre-pouvoirs. Et dans, au fond, les dérives françaises
du leadership,
semble-t-il, c'est l'exercice solitaire du pouvoir.
Voilà. Et vous décrivez une autre impasse, c'est l'horizontalité totale. C'est-à-dire que une société, ça n'est pas un chef qui exerce tout seul le pouvoir, ça n'est pas une horizontalité totale non plus. Voilà, il faut ces contre-pouvoirs et cet intermédiaire qui soit entre les deux.
Il faut un équilibre. Et de ce point de vue-là, je trouve que nos parlementaires n'assument pas aujourd'hui ce contre-pouvoir. Et ça, sans doute parce qu'ils sont élus, en fait, par le président de la République.
Allons-y, c'est une des propositions que vous faites.
Je pense que le système américain, de ce point de vue, me paraît meilleur. C'est d'avoir des élections à mi-mandat des parlementaires. C'est-à-dire que le président, il est obligé de faire vite ses réformes, parce qu'il a 2 ans et demi pour les faire. Et puis, ensuite, les Français jugent. Et si les Français sont d'accord pour qu'on continue dans cette direction, ils lui donnent une majorité. S'ils ne sont pas d'accord, ils créent la cohabitation, mais la cohabitation n'a pas été un drame quand elle est arrivée en France. Et je pense que l'exercice solitaire du pouvoir, c'est une dérive majeure et qu'il faut essayer d'éviter pour le pays.
Autre proposition, on parlait de leadership féminin. Au-delà de la parité, vous proposez l'alternance, notamment dans les grandes organisations internationales. Un homme, puis une femme, puis un homme, puis une femme.
Oui, je pense que très souvent, les femmes ont une sorte de plafond de verre sur leur ambition. Elles ne pensent pas qu'elles peuvent accéder à tel type de poste. Et donc, quelquefois, on dit les postes sont ouverts aux femmes, mais on ne prépare pas les femmes à ces postes. Et au moment venu, quand il s'agit de décider, il n'y a pas de femmes qui sont prêtes pour cette responsabilité. Donc moi, je serais assez partisan qu'on dise, par exemple, le prochain secrétaire général de l'ONU, c'est une femme. Et donc toutes les femmes qui sont aujourd'hui en responsabilité, elles savent qu'elles ont 3 ans pour se préparer si elles sont candidates.
Ça pourrait
donc l'idée
pour...
de l'alternance, c'est important parce que ça ouvre les systèmes. Regardez, dans les entreprises, les femmes ne gèrent pas comme les hommes. Les équipes ne sont pas les mêmes. Les structures, les mécanismes de contrôle ne sont pas les mêmes. Et donc ça ouvre les systèmes.
Ça pourrait marcher pour des mandats électifs locaux, par exemple, le maire, tantôt un homme, tantôt une femme ? C'est plus compliqué.
C'est sans doute plus compliqué, mais je pense que c'est un bon principe parce que, au fond, des systèmes s'installent et ce qui compte, c'est de faire vivre les organisations. Ils mettent de la liberté, ils mettent de l'oxygène. Et l'alternance, ça met de l'oxygène.
Alors allons-y pour la politique française. L'atout majeur d'Emmanuel Macron, celui qu'il garde dans son jeu, écrivez-vous page 292, reste sa jeunesse. Et c'est ce qui suit qui m'intéresse. Nous vivons une période de grande transformation dans laquelle la modernité l'emporte sur l'expérience, peut-être sur la sagesse. L'essentiel devient l'initiative et le mouvement. Les seules forces qui peuvent s'opposer à la modernité sont celles de la nostalgie et du « c'était mieux avant ». C'est ça, Jean-Pierre Raffarin, le tableau politique de la France, l'alternative des mois à venir, un mouvement au fond pas tout à fait maîtrisé ou une nostalgie inquiétante ?
Je crois que la nostalgie est le pire des dérives de la politique. D'abord, il faut faire confiance aux jeunes. De tout temps, l'humanité avance parce que les jeunes trouvent des solutions à des problèmes que les générations d'avant n'ont pas réglés. Et donc, il faut faire confiance aux jeunes. Et c'est pas la jeunesse qui est le danger. La jeunesse, c'est que c'est vrai, Elle vit un rythme de mutation en ce moment extraordinairement rapide. Et donc, vous parlez de TikTok, un certain nombre de Français, ils connaissent pas TikTok, vous regardez un certain nombre de technologies, on voit ce qui se passe aujourd'hui dans tout ce qui est technique de santé. Par exemple, vous voyez ma montre, elle me donne mon battement de cœur, elle me fait un électrocardiogramme.
Et tout va bien, rassurez-nous.
Tout va très bien. Bon, mais je peux la regarder. Donc, on est dans des systèmes d'information qui bougent considérablement. Donc, il faut d'abord faire confiance aux jeunes. Et donc, leur donner des responsabilités, essayer de provoquer un certain nombre de débats, mais d'avoir confiance. Et je trouve que c'est un des atouts majeurs de Macron pour l'avenir, c'est que, disons, en résumé, il a 50% d'expérience et 50% d'espérance. Parce que quand on a 45 ans, ou ce qui sera quand il sera un nouveau président, s'il est réélu, tout est possible aujourd'hui. Il peut très bien ne pas être réélu. Hein.
Oui, il y a un côté bord du gouffre, je trouve, dans le livre. Vous dites, nous pourrions, notamment si la pandémie revient, nous pourrions nous placer dans une configuration où un saltimbanque de la politique, on pense à Zemmour, qui parviendrait à provoquer une défibrillation dans l'opinion par une sortie médiatique opportune, aurait toutes ses chances. Il y a un côté bord du gouffre quand même.
Ah oui, parce que on peut avoir une campagne qui à un moment est anti-sortant, c'est le dégagisme. Et là, on a une fédération de mécontents. C'est très difficile à gouverner avec une fédération de mécontents, mais ça peut arriver. Et donc, vous pouvez avoir un candidat dont la qualité, ce ne soit pas le projet, mais d'être le réceptacle de gens qui sont en désaccord entre eux, mais qui sont tous d'accord pour dire « dehors le sortant ».
Et Éric Zemmour, c'est un bon leader à sa manière.
Ce n'est pas un leader aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a des qualités, et notamment parce qu'il donne à l'extrême droite ce contenu culturel, cet enracinement dans la France, dans la nation, qui manquait à Marine Le Pen. Il a révélé le creux de Marine Le Pen. Et donc, il a un positionnement qui correspond à la vieille droite française, maurassienne, cultivée, mais extrême droite néanmoins. Et que cette droite-là, c'est un segment politique dans notre pays qui a toujours existé et qui peut-être même a été majoritaire dans la France de Pétain. Mmh. Et à un moment où on a eu des hésitations sur ce qu'était la France à ce moment-là. J'étais avec Jacques Chirac quand il a condamné cette France de Vichy qui a fait déshonneur à notre pays.
Mais pas donc, majoritaire aujourd'hui.
Mais je ne le vois pas aujourd'hui capable peut-être d'avoir l'expérience, les nerfs. Quand vous voyez qu'un Lionel Jospin perd en partie la présidentielle contre Jacques Chirac parce que dans un avion il dérape en disant que Jacques Chirac en résumé est trop vieux. Je veux dire, même un Lionel Jospin très formé, très préparé pour résister dans cette campagne, dans cette pression, dans la famille il est exposé, tout est vraiment difficile. Je crois que là, et il faut une capacité personnelle, il faut, comme dirait le général de Gaulle, du caractère. Et là, on va voir. Mais les journalistes sont des gens formidables.
Mais, je sens venir un mais.
Mais vous faites le tour de la politique, vous n'entrez pas forcément dedans. Et quand vous êtes dedans, il y a quelquefois des cyclones.
Mais pardon, ce que je retiens, c'est que vous dites, c'est Zemmour qui tiendra pas forcément, mais vous ne me parlez pas de l'opinion par rapport à lui. Mais il peut continuer à grimper de votre point de vue?
Ah, je pense qu'il peut continuer à grimper. Si la droite se désintègre, si la droite républicaine, l'erreur de son calendrier, où elle est très en retard, alors qu'elle devrait combattre Zemmour aujourd'hui, elle s'occupe de son propre congrès et de son propre débat. Donc, je vois qu'il y a un certain nombre d'erreurs. Si la droite se désintègre, à ce moment-là, Zemmour peut venir grignoter sur cette droite-là et donc présenter en effet une problématique dangereuse.
Pourquoi n'arrive-t-elle pas à trouver un chef, la droite? Pourquoi, prenons Barnier, Pécresse, Bertrand, pourquoi aucun ne s'impose?
Parce que la droite est entrée dans ce virus qui a été cette primaire que nous avons eue quand
il y a 5 ans, il y a 4 ans,
il y a 5 ans, oui, ouais. Quand on a quand même torpillé un ancien président et 2 anciens premiers ministres dans un seul dimanche, et donc je crois qu'on est parti dans cette logique-là. La question fondamentale, c'est comment on représente les Français et non pas comment on représente une fraction de la France. La primaire, le congrès, c'est une fraction de la France. Ce n'est pas la France. Alors on va chercher quelqu'un de très représentatif d'une fraction de la France, alors qu'il faut trouver quelqu'un qui rassemble la France.
Dernier chapitre, le chapitre du pronostic, portrait robot de notre prochain président. Sobriété, proximité, autorité, vision, écologie. Pour avoir une note sur 20, on donne 4 points à chaque critère. Macron obtient 13 sur 20, ce qui donne une idée de votre regard sur lui et de la difficulté peut-être à le Badjoulet. Qu'on garde une minute parce qu'il y a beaucoup de questions sur la Chine, Jean-Pierre Raffarin. Et je voudrais qu'on écoute François-Xavier, qui nous appelle de Vannes. Bonjour, oui. Bonjour François-Xavier. On l'a pas? Eh ben alors si on l'a pas, je vais prendre la question dans ma voix. En cas d'attaque de la Chine sur Taïwan, que devraient faire les Occidentaux? Et est-ce que c'est, de votre point de vue, un risque crédible, réel, aujourd'hui?
C'est un risque. C'est un risque d'abord parce que nous sommes entrés dans une sorte de guerre diplomatique. L'absence de la Chine à la COP26, c'est pas un bon signal. Quand les États-Unis sont autour de la table, maintenant la Chine n'y est plus. Donc ça, on est en partie, on avait une guerre douanière, maintenant on a une guerre diplomatique. Donc soyons très prudents dans cette escalade de tensions du monde autour de cette tension entre le numéro 1 et les États-Unis qui n'acceptent pas l'émergence du numéro 2 et le numéro 2, la Chine, qui se verrait bien à la place du numéro 1.
Les deux ont la même responsabilité ?
Les deux ont des responsabilités voisines. Naturellement, nous sommes alliés des États-Unis, nous sommes dans le camp des démocraties. Nous ne sommes pas dans le camp des régimes autoritaires. Mais quand on voit l'affaire australienne, on se dit que dans les coups durs, on n'est pas forcé de pouvoir compter sur les États-Unis. Donc on voit bien qu'on a besoin, au niveau de l'Europe, d'un leadership, là, parce que là, la question fondamentale, y compris Marco Merkel, qu'est-ce qui va se passer au printemps prochain? Où sera le leadership de l'Europe? Et moi, pour ma part, je crois que ce leadership, il doit être franco-allemand. Mais pour revenir à la Chine, je pense que c'est extrêmement dangereux. Les Chinois ne céderont pas sur l'affaire de Taïwan. Donc, il faut qu'on soit avec eux en situation de négociation pour éviter de les mettre dans ce système d'engrenage où ils vont vouloir intervenir. Mais je crois que c'est un sujet très dangereux. Il faut prendre au sérieux, surtout que le dialogue aujourd'hui, c'est la diplomatie. C'est d'être autour de la table. Or, notre diplomatie, avec cette pandémie, est au ralenti. Ça fait 2 ans et demi qu'il n'y a plus de délégations qui vont dans les pays les uns des autres, qu'il n'y a pas de dialogue vraiment authentique. Donc, quand il n'y a pas de dialogue, il y a danger pour la paix.
Merci Jean-Pierre Raffarin d'être venu dans les studios de France Inter. Choisir un chef, c'est aux éditions Michel Lafon. Il est 13h45.
France Inter. Le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
En pleine COP26, vous nous parlez d'un universitaire écrivain important pour réfléchir aux effets du dérèglement climatique.
Jared Diamond qui a publié Naguère, Effondrement.
À tout à l'heure, dans 10 minutes. Avant cela, le feuilleton dans un tiers-lieu de la région bordelaise. Comment favoriser l'accès au numérique dans une commune rurale? Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Le 11e prix Georges Moustaki sera attribué ce soir à la Sorbonne. Il récompense un album de chansons produit en dehors des grands labels. Le poète Mathias Vincenot, qui a récemment publié Une éternité provisoire aux éditions Unicité, est cofondateur de ce prix. Et il est à votre micro, Frédéric, le temps d'une chanson.
Et ce n'est pas d'une chanson de Georges Moustaki qu'il a choisi de me parler. Ben non, trop facile. C'est d'une chanson de Claude François, une chanson qu'il a découverte vers l'âge de 10 ans, il en a 40 aujourd'hui, c'était donc au début des années 90.
Mes parents avaient différents CD et parmi les CD, il y avait un CD de Claude François, un CD blanc qui s'appelait Hommage. Et dans ce CD de Claude François, il y avait les chansons de Claude François, plutôt de la première période, Belle, 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 Même si tu revenais, etc. Tout ça. Et puis dedans, il y en avait une qui se distinguait des autres, qui était un peu moins boum boum, un peu moins légère, qui est une sorte de berceuse. À l'origine, une chanson yiddish, moi j'ignorais tout de ça, qui d'ailleurs, dans la version française, n'a rien à voir avec la chanson yiddish, mais qui dit « Donna, 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 tu regretteras le temps où tu étais un enfant ». C'est-à-dire l'enfant qui se fait bercer par sa mère et qui rêve d'être un adulte, et puis l'enfant adulte qui a l'écho de cette chanson qui lui revient et qui aimerait bien finalement revenir au moment où il se faisait bercer par sa mère. C'est une chanson qu'on écoute à différents niveaux, que j'écoutais d'une manière quand j'étais enfant, que j'ai écouté différemment quand j'ai été adolescent. Et maintenant que je suis doublement père de famille, c'est une autre manière aussi de me toucher.
Il était une fois un petit garçon qui vivait dans une grande maison. Sa vie n'était que joie et bonheur, et pourtant au fond de son cœur, il voulait devenir grand, rêvait d'être un homme. Chaque soir, il y pensait, quand sa maman le berçait. Donna, 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 tu regretteras le temps. Donna, Donna, Donna,
c'est en 1964 qu'est sortie cette version de Claude François, Frédéric.
Soit 4 années après la version de John Baez. Sachant qu'au départ, comme le disait Mathias Vincenot, il s'agit d'une chanson écrite en yiddish dont l'histoire est très 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 éloignée de ce que chante Claude François. D'ailleurs, c'est quand même un peu bizarre d'avoir choisi Clo-Clo quand on est le cofondateur du prix Georges Moustaki.
Moustaki, Claude François, oui, c'est assez étrange, mais ce qui les rapproche peut-être, c'est une sorte d'humanisme doux, de l'humanisme simple, agréable, essentiel.
Moustaki aurait pu chanter cette chanson.
J'ai l'impression qu'il y a certains mots dans cette chanson qui auraient pu aller à Georges Moustaki, oui. Je ne dis pas que Moustaki aurait chanté toutes les chansons de Claude François, attention. Mais celle-ci, quand même, il y a un cousinage.
Puis il l'a grandi.
grandi, puis il est parti et il a découvert la vie, les amours déçus, la faim et la peur, et souvent au fond de son cœur, il revoyait son enfance, rêvait d'autrefois. Tristement, il y pensait et il se souvenait.
Aujourd'hui, quand vous entendez cette chanson-là, elle vient toucher quoi ?
Toucher l'essentiel de ma vie. Les enfants qui naissent, les parents qui vieillissent, moi aussi qui vieillis, l'envie de protéger mes enfants, qu'ils aient une belle vie, qu'ils vivent bien, tout simplement, qu'ils vivent heureux, et de les bercer pour que la vie soit douce, et peut-être que mes filles puissent aussi se dire bah, « c'était pas mal notre enfance ». Tous ces points auxquels peut-être on est moins attentif, bien sûr, quand on est petit, et puis qu'on comprend davantage au fil du temps.
Parfois je pense à ce petit garçon, ce petit garçon que j'étais.
Donna, Donna, par Claude François. C'était donc Frédéric, le choix du poète Mathias Vincenot.
Co-fondateur du prix Georges Moustaki qui sera remis ce soir et auteur du recueil Une éternité provisoire, son dernier recueil de poèmes publié aux éditions Unicité.
À demain.
À demain.
Feuilletant une semaine au sein de Cœur de Bastide, le tiers-lieu de la commune rurale de Sainte-Foy-la-Grande, près de Bordeaux. Et nous continuons avec Yann Gallic de détailler l'activité au sein de cet espace créé il y a une dizaine d'années pour redynamiser la commune, l'accueil de personnes qui créent leur entreprise, un soutien aux démarches administratives, mais aussi dans une petite ville comme tant d'autres où l'accès au numérique peut être compliqué, le coût, le réseau, les compétences. Au sein de Cœur de Bastide, on trouve aussi des solutions à ce problème du numérique. C'est le quatrième épisode de notre feuilleton.
Alors là, on est dans une pièce où on recycle les ordinateurs. On récupère les pièces pour pas que ça se retrouve sur le trottoir.
Vous les récupérez où, ces ordinateurs ?
En général, ça reste des dons. Donc il y a une vingtaine de PC de démonter. Ce qu'on peut récupérer, on le récupère, comme les mémoires. On récupère aussi des pièces comme les alimentations, qui peuvent servir à réparer d'autres machines. Je m'appelle Charlie et je m'occupe de la partie informatique, si on peut dire, du Cœur de Bastide.
On va voir votre bureau alors ?
Oui. Voilà, alors là, c'est plutôt la partie logicielle. Remettre en état les ordinateurs que les gens nous donnent pour les plus démunis, donc on les répare. À 99%, on installe des logiciels libres. Il faut savoir que quand une personne va chez un artisan, j'ai rien contre les artisans, hein, bien au contraire, pour réparer, c'est au minimum 140 euros, 150 euros à chaque fois. Ici, ils ont besoin d'être adhérents de l'association et ça leur revient à 5 euros par an.
Ces ordinateurs que vous réparez après, ils sont destinés à qui ? À des gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des ordinateurs neufs, par exemple ?
Uniquement aux gens qui viennent, aux plus démunis, qui ont besoin de ça à la maison. C'est des PC qu'on prête ou qu'on donne aux gens du pays. Ils sont gagnants et nous, en tout cas pour moi, c'est valorisant. J'ai vraiment l'impression d'être utile. Voilà, cette année, là, c'est tout récent, un campus connecté. Donc il y a les élèves qui sont là.
Moi, je m'appelle Cécile Rousseau et je suis tutrice au campus connecté. Je m'occupe en fait des étudiants, ils viennent ici, ils ont besoin d'un tiers-lieu, on va dire, pour étudier. Donc ils ont une école qui est à distance, donc ça peut être une école à Lille, à Paris, à Rennes ou je sais pas où. Et nous, on va les accueillir ici. Donc ils vont avoir tout sur une plateforme sur Internet, ils ont tous leurs cours. Ils ont parfois des visioconférences avec leurs professeurs. Et moi, je suis là pour les aider, en fait. Donc, il y a plusieurs types, on va dire, d'accompagnement que je fais. Il y a l'accompagnement pédagogique avec la méthodologie, l'accompagnement social, où je vais les aider dans la ville aussi, à se débrouiller. Voilà, donc ils ne sont pas tout seuls, ils ne sont pas dans un amphithéâtre avec 400 autres élèves. Par exemple, cette année, première rentrée, on a 6 étudiants qu'on chouchoute comme on peut.
Je vois qu'il y a 2 étudiants qui sont là aujourd'hui. On va peut-être aller les voir, je ne sais pas s'ils veulent nous parler. Je peux vous déranger pour la radio ? C'est comment votre prénom ?
C'est Bader. Je suis étudiant en BTS Assurance et pour l'instant, je fais mon BTS en distanciel.
Comment ça se passe ? Là, je vois que vous êtes devant votre ordinateur portable. Donc, vous êtes connecté au site
du CNED. Et là, j'ai tous mes cours et j'ai 15 semaines de stage à faire dans l'année. Et ce campus connecté, j'ai 15 heures par semaine.
Et vous, personnellement, vous préférez étudier ici que dans une université ?
L'année dernière, j'étais en faculté de droit. Avec le coronavirus et les cours, c'est pas quelque chose que j'ai aimé. J'étais à Bordeaux, à Talence, et j'avais un logement qui, pour moi, était trop petit, où je devais me démerder tout seul un peu, payer le loyer, faire des démarches administratives. Et voilà, c'est mieux ici parce que j'ai pas besoin à faire de toutes ces démarches. Voilà, j'ai choisi mon BTS Assurance. À Bordeaux, je pense que je n'aurais peut-être pas eu cette chance-là parce qu'il y a beaucoup de demandes et là, j'ai ma bourse et je peux vraiment profiter de ma bourse et retourner chez moi avec ma famille.
Et le dernier épisode du feuilleton réalisé par Lucie Lemarchand, c'est demain.
France Inter. Le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. En pleine COP26, vous vous intéressez à l'un des auteurs clés de l'histoire de l'environnement, Jared Diamond, qui a plus de 80 ans. Il y a 15 ans, il écrivait « Effondrement », où il donnait une explication écologique au déclin de l'île de Pâques.
Alors, l'histoire environnementale a une existence académique aux États-Unis, son pays, depuis les années 1970. Diamond est à l'origine physiologiste et biologiste. Pour exister dans les universités, l'histoire environnementale à l'américaine s'est alliée aux sciences de la nature, les acteurs non humains devant être étudiés au même titre que les humains. Enfin, l'histoire environnementale, comme naguère l'école de Darwin, s'est intéressée par priorité au micro-monde. Diamond, par exemple, a pratiqué l'ornithologie en Nouvelle-Guinée.
Et c'est aussi un écrivain qui sait mettre en scène des livres à succès.
Ah bah oui, un prix Pulitzer, traduction quasi instantanée, adaptation à la télévision, conférence dans le vaste monde. Avec les livres qui avaient précédé Effondrement, il était déjà devenu maître en faire savoir. Alors le sous-titre d'Effondrement, traduction en français en 2006 après la parution en anglais en 2004, c'est « Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie ?» Alors on voit combien ça résonne aujourd'hui où on nous dit que nous sommes en train d'acheter un aller simple vers le désastre.
Mais les livres de Diamond, dites-vous, sont de vastes fresques avec des arrêts sur image sur un certain nombre d'exemples. Il savait que le plus lu serait celui consacré à l'île de Pâques dans le Pacifique qui appartient lointainement au Chili. Elle est très au large à l'ouest du Chili.
Les étrangers n'en ont trouvé le chemin qu'à partir du 18e. S'y dressaient ou, plus étrangement encore, y étaient couchées d'énigmatiques statues dont les Occidentaux ont fait peu à peu un mystère de plus en plus indémêlable. Au 19e, l'île, dont on savait qu'elle fut plantée d'innombrables arbres et palmiers, n'était plus qu'une steppe, et les Pascuans, une population éthique. Diamond s'est attaché à donner de cet effondrement une explication écologique et démographique. Les Pascuans auraient déforesté à l'aveugle, et vint un moment où le bois manquant, la douzaine de clans qui se partageaient l'île entrèrent dans des luttes de domination et de sacralité dont les statues constitueraient la trace. Et, après guerres et famines, vint la fin au bout d'un processus dit Diamond suicidaire.
On appelle donc Pascuan les habitants de l'île de Pâques. Après 15 ans, que reste-t-il de cette interprétation ?
Eh bien, entendre les archéologues, pas grand-chose. Ils ne lisent pas dans l'île de traces de guerre ou de famine, et ils ont, au contraire, tendance à attribuer beaucoup de responsabilités aux facteurs extérieurs, le coup fatal étant porté par des marchands d'esclaves péruviens qui déportèrent l'essentiel des Iliens, interrompant la transmission de toute mémoire. Mais les premiers occupants eux-mêmes, au premier millénaire, avaient introduit des rongeurs qui firent plus de dégâts que les hommes. Et il ne faut pas négliger les événements climatiques, mais extérieurs. El Niño a montré quels effets ils peuvent avoir dans ces parages.
Oui, mais Diamond, un pas vide, a continué ses réflexions.
Parce que plus qu'un théoricien, c'est un lanceur d'hypothèses, et certaines sont assez osées. Il a tendance à voir partout le danger de la surcharge démographique. La bombe P comme population dans l'effondrement, par exemple, il n'avait pas hésité à expliquer le génocide rwandais par ce facteur, selon lui, premier. Mais aujourd'hui, il n'est pas de ceux qui ne se consacrent qu'à l'exploration du déclin. Vous savez, comme en Europe, les spécialistes qui vaticinent sans cesse sur la chute de l'Empire romain. Son dernier livre s'appelle « Bouleversement » et on pourrait aussi bien le nommer « Relèvement ». C'est un adversaire de la collapsologie. « Bouleversement » traite du redressement de différentes sociétés et notamment de celle du Chili. après Pinochet. Et l'île de Pâques, vous le savez, est chilienne, vous l'avez dit. Par référendum, il y a quelques jours d'ailleurs, ses habitants, ou du moins la minorité qui s'est exprimée, ont dit leur volonté de voir leur île rester fermée à l'extérieur jusqu'à la fin finale de la pandémie. Et puisque vous aimez le Pascouan, à cette catastrophe, Bruno, ça se dirait en Pascouan, stop, tapu.
Stop, tapu. Merci Jean Lebrun, le vif de l'histoire et la terre au carré après 14h. Bah tiens, il est aussi question d'archéologie. L'archéologie n'est pas un fleuve tranquille, c'est le thème de l'émission de Mathieu Vidard juste après les infos de 14h.